Le géant Calabardin et la princesse aux cheveux d'or.
Ur wech e oa, ur wech a vo. Commença mont an ol gaoujo. Na eus namar namar teze, en eus tri droit an trebe. Il était une fois, il sera une fois. Beau commencement de conte, ma foi. Il n'y a pas à tortiller, le trépied a toujours trois pieds.
Il était une fois un roi de France qui n'avait qu'un seul fils et qui ne savait rien lui refuser. « Il est si beau, disait la reine, et si joyeux, disait le roi. « Si svelte, disait la reine, si vif, disait le roi. On le voyait virevolter à cheval par temps de soleil ou par temps de neige quand il allait chasser dans les grandes forêts du royaume. Il avait les cheveux bleus noirs comme l'aile du corbeau, il riait d'un rire clair, et n'avait peur de rien. Près du palais se trouvait une forêt pleine de loups, de renards et de bêtes puantes. Il faisait tant de ravages que les paysans se plaignaient au roi. Mais les vieilles chroniques disaient qu'il y avait dans ce bois des endroits dangereux, il ne fallait pas y entrer. Un jour d'automne, comme des seigneurs même s'étaient plaints, le roi finit par dire qu'il inviterait les meilleurs chasseurs du royaume et donnerait une grande chasse. « Allons donc, à quoi bon ? Laissez-nous y aller, mon valet et moi, dit le prince. Nous sommes aussi bons chasseurs que tous les autres. Ces loups, ces renards et toutes ces bêtes puantes, nous aurons bien vite fait d'en venir à bout. » Le roi refusa. Il avait de tout temps interdit au prince d'entrer dans cette forêt. Mais le prince était obstiné. Son désir d'y entrer n'avait fait que grandir, et il savait bien que son père finissait toujours par tout lui céder. Le roi céda. Mais à la condition qu'il ne quitterait jamais son valet et se ferait accompagner d'au moins 50 soldats. « Va pour 50 soldats, dit le prince. Mais au matin de partir, quand il fut seul avec son valet, « À quoi bon des soldats ? Ils nous empêcheraient de chasser à l'aise. Partons vite tous les deux. » Et les voilà qui s'élancent. Ils vont vers l'orée du côté du soleil levant, où se voient les plus grands arbres. Des hêtres qu'on aurait dit ce matin-là coulaient dans l'or, et le ciel était d'un bleu trempé de pluie. Le prince avait promis de ne pas se séparer de son valet, mais à peine franchi la lisière, il lui crie « Va de ton côté, moi du mien, rendez-vous ici au coucher du soleil. » Et tous les deux s'éloignent. Le prince va tout joyeux, noir sur son beau cheval noir dans la lumière des branches, mais les bois se font plus obscurs, les chemins plus rudes et de bêtes patraces. À la tombée du soir, il voit s'ouvrir une clairière. Et dans cette clairière, assise de biais comme une dame sur la mousse, une biche qui le regarde. Il prend son arc, ajuste sa flèche et s'apprête à tirer. Mais la biche lui dit « Tirerez-vous sur moi, fils du roi de France ?» Le prince en reste si saisi qu'il laisse tomber sa flèche dans les fougères. « Vous savez qui je suis ?»« Oui, et je sais aussi que vous devez ici promettre de m'épouser. »« Mais vous êtes une biche. »« C'est promettre ou mourir sur l'heure, à vous de choisir. »« Je ne veux pas mourir, je suis bien trop jeune. »« Alors revenez demain, n'y manquez pas, sinon malheur à vous. » Sur ce, la biche se lève et s'enfonce dans le bois. Le prince rentre au palais, le cœur lourd. À son retour, la nuit était tombée depuis longtemps. Le roi avait fait mettre son valet au fer parce qu'il était revenu seul, et tout le monde l'attendait dans la grande salle. Le prince s'accusa, disant que c'était lui qui avait donné ordre à son valet de le quitter. On remit le valet en liberté, et le roi le prit à sa table. Le vin brillait dans les grandes coupes. Les venaisons fumaient. Le feu flambait. Chacun racontait ses exploits et les rires des seigneurs ne faisaient qu'assombrir le cœur du prince. Après le repas, le roi le prit à part. « Vous dites que vous avez fait bonne chasse, mais à vous voir, vous n'avez pas été heureux. »« Non, mon père, je n'ai pas été heureux. Je n'ai rien pris et il m'est arrivé une aventure à laquelle je n'arrive encore pas à croire. » et il lui dit comment il avait rencontré la biche. Je vous avais bien ordonné de ne pas rester seul, mais vous ne m'avez pas écouté. Les vieilles chroniques ne manquaient pas, cette biche, vous devrez l'épouser. Et le vieux roi se retira tout voûté de tourments. Le lendemain, le prince se rendit au bois et trouva la biche qui attendait au même endroit, assise de la même façon comme une dame sur la mousse. Le voyant arriver, la biche se leva gracieusement, elle lui dit de la suivre et partit devant lui d'une petite démarche dansante. Pour commencer, ils traversèrent une grande lande, puis une immense prairie d'herbes grises. Au milieu se trouvait une sorte de butte, comme une taupinière. La biche alla droit vers cette taupinière, elle y entra par une ouverture qui se trouvait au levant, et le prince y entra à sa suite. Ce qu'il fait sombre ici, se disait le prince, elle se gardait bien d'ouvrir la bouche. Le chemin descendait de plus en plus raide, de plus en plus noir, et eux ils descendaient aussi, toujours dans le noir, toujours dans une odeur de terre et de pierre froide, jusqu'à ce qu'une petite lueur se voie tout au loin comme une brume, puis une lumière et un grand jour pâle. Ils approchent, ils font un pas, et les voilà dans un pays nouveau, un pays où tout est à la fois pareil et différent. Des plantes poussent, mais ce sont des plantes qui ne ressemblent pas à celles du monde d'en haut. Des oiseaux volent, mais ce sont des oiseaux que le prince n'a jamais vus. Et le ciel est plus transparent. Le soleil est plus blanc, mais d'un blanc comme voilé. Au loin surgit un manoir qui miroite. Ses murs de verre sont comme remplis de reflets de lumière, et le ciel glisse sur ses toitures avec des moirures d'or. Quelle splendeur, dit le prince. C'est bien peu de choses, dit la biche, il en est de plus beau. Un peu plus loin surgit un grand manoir d'argent, à tourelles qui se découpent sur le ciel comme une orfèvrerie très fine. Quelle splendeur, dit le prince. C'est bien peu de choses, dit la biche, il en est de plus beau. Un peu plus loin surgit un immense manoir d'or, et ses murs ont une lueur si douce sous le soleil qu'il donne l'impression que de l'or vous coule par les yeux dans le cœur. C'est là le château de mon père, dit la biche, et nulle part vous n'en verrez de plus beau. Le prince avance derrière elle, la tête en l'air tant il admire les moirures d'or. Deux grands cerfs leur ouvrent le portail. Dans la cour, des cerfs font l'exercice comme des soldats. Trois gros cerfs jouent du cor, des biches tissent de la soie sous un dais d'or rose. D'autres entrent et sortent des cuisines et leurs sabots tintent joliment sur les dalles. Là-haut, dans la belle salle du manoir, se tient un vieux cerf à ramure majestueuse. La biche s'agenouille devant lui et lui présente le prince. Le vieux cerf le salue, le bénit du sabot, puis il l'invite à visiter le manoir et son parc. Et les voilà tous trois, bras dessous, qui s'en vont par les couloirs d'or, et le roi cerf rit de bonheur en montrant ses grandes dents, chaque fois que le prince dit « Quelle splendeur !» Enfin, ils arrivent sur un grand perron, et les dernières allées du parc se voient dans une brume de soleil. « Déjà 2 mois que vous êtes ici, dit la biche. »«
2 mois ? Mais il ne s'est pas écoulé 2 heures. »«
2 heures d'en haut, faut 2 mois d'ici. Il est temps de nous marier. »«
Bon, dit le prince. »
Et le lendemain, partant clair, on se rendit à l'église. Tout le cortège se composait de cerfs et de biches, et le prêtre lui-même était un vieux cerf, habillé en évêque avec une mitre d'or sur la tête. Les 2 anneaux étaient posés sur un plat d'or. L'évêque pria le prince de passer la bague au sabot de sa fiancée. Ah, mais comment faire ? Mais dès que la bague eut touché son sabot, la biche se changea en une princesse aux longs cheveux d'or. Aussitôt, tous les cerfs et les biches qui assistaient à la cérémonie devinrent des princes et des princesses, des abbés et des seigneurs. Et tous se pressaient autour du prince et disaient « 1000 bénédictions sur vous. Il y a si longtemps que nous étions ici retenus sous enchantement par le géant Calabardin. Vous nous avez tous délivrés. » Alors, pris d'allégresse, ils se mirent à chanter et danser en rond, après quoi le vieux roi, suivi du prince et de la princesse aux cheveux d'or, mena tout le monde festiner au manoir, dans le bonheur et dans la joie. Venu le temps d'aller dormir, le prince voulut mener la princesse à sa chambre. « Non, pas encore, dit la princesse. Trois nuits de suite, vous me conduirez jusqu'à la porte de ma chambre. Quand j'y serai resté 3 heures, vous viendrez me chercher, mais sans entrer dans ma chambre, ni essayer de voir ce qui s'y passe. Après ces 3 nuits, je serai libre et je vous suivrai où vous voudrez si vous obéissez à ces consignes. » « Bon, dit le prince, mais il était bien contrarié. Il mena sa femme à la porte de sa chambre et revint la chercher au bout de 3 heures. « Soyez patient, dit la princesse en l'embrassant. » La deuxième nuit, il la laissa et revint au bout de 3 heures. Mais la troisième nuit, il regarda par le trou de la serrure. Il vit la princesse qui se peignait avec un peigne d'or, et à chaque coup du peigne d'or, des pièces d'or tombaient de sa tête sur un plat d'or. Seulement, quand il revint, elle avait disparu. Il l'appela, il la chercha, puis dans son désespoir, alla trouver le roi. « Votre curiosité a fait votre malheur, dit le roi, et celui de ma fille aussi, et le mien. Cet or que vous avez vu tomber de la tête de ma fille était destiné au géant Calabardin. Elle n'avait plus que 3 douzaines de plats d'or à lui fournir pour être délivrée, et la voilà maintenant tombée en son pouvoir. Calabardin l'a emmenée par-delà la mer Rouge à son château de Rose du Fort. Ce château est suspendu au-dessus de la mer Noire, entre le ciel et l'eau, et nul mortel ne peut y parvenir. Moi, j'y parviendrai, dit le prince. Et il partit. Il avait juré de ne s'arrêter ni le jour ni la nuit, sinon pour s'assoupir un peu et reprendre des forces avant de l'avoir retrouvé. Partout, il demandait où trouver le géant Calabardin, mais personne n'en savait rien. Il passa la mer Blanche et marcha, marcha. Il passa la mer Rouge et se dit qu'il pourrait approcher de Rose du Fort, mais ce qu'il rencontra fut un désert de sable. Pour l'or, brûlé de soleil, desséché de vent, noir et sec comme une fourmi, réduit à se nourrir d'herbes sauvages, il était bien faible. Mais plus il faiblissait, plus durcissait sa ténacité. Un jour, il arriva près d'un grand arbre vert, et devant ce grand arbre était un tas de bois disposé comme pour faire du feu. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas rencontré d'homme qu'il sentit une lueur de joie. C'était un peu après le coucher du soleil, la nuit tombait, et il se dit qu'il monterait dans l'arbre et se ferait une cabane de branches. Ceux qui avaient préparé le bois viendraient tôt ou tard y mettre le feu. Une journée passa, personne ne venait. Mais le prince pouvait boire l'eau de la source qui rendait l'arbre vert et grappiller des baies roses à goût de grenade qui lui rendaient des forces. Au soir, il se fit un grand bruit et dans un craquement de branches arriva une espèce d'ogre à tignasse noire, bourru, moussu, crépu, qui s'assit en grognant. « 700 ans que je me suis quitté d'ici. Savoir ce que sont devenus mes frères. On avait dit que le premier arrivé mettrait le feu au bois, je suis le premier, j'allume. » Il tomba sur ses gros genoux qui craquaient et mit le feu aux bûches.